France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Vincent Debanne, merci pour votre livre « La source et le signe, l'anthropologie, littérature et paroles indigènes ». J'ai été particulièrement bousculé par votre livre, par son érudition et par ce que j'ai pu en apprendre sur l'ethnographie et la littérature, sur le roman africain.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Écrire en pays dominé, lire en pays dominant. Aujourd'hui, votre book club s'intéresse aux textes qui ont été produits par des populations dites autochtones et indigènes dans des périodes et des systèmes coloniaux. Incités à écrire par les autorités coloniales, leurs auteurs étaient souvent invités à se penser comme un autre, à se regarder avec les outils paradoxaux de l'ethnographe. Comment lire ces textes le plus justement possible plusieurs décennies plus tard? Vincent Debanne publie un livre qui nous y aide, titré La source et le signe, anthropologie, littérature et paroles indigènes. Il est notre invité. Ensuite, et comme chaque semaine, nous retrouverons Mathilde Wagman, attentive pour nous aux publications jeunesse. Aujourd'hui, elle évoque le lien tout privilégié qu'entretient la littérature avec les fantômes, y compris quand elle s'adresse aux plus petits d'entre nous. Et enfin, on jouera au grand jeu des pages musicales à chercher trouver de la musique dans le livre. J'ai l'impression qu'on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Vincent Debanne.
Bonjour Marie Richeux.
La source et le signe, c'est le titre de votre livre paru aux éditions du Seuil dans la collection La Librairie du XXIe siècle. Le Book Club commence tous les jours par un portrait de lectrice et de lecteur de nos invités. On imagine qu'on fait bien connaissance avec eux ou avec elles en leur demandant quel chemin ils ont trouvé sur leur parcours. Il se trouve que ce livre dont on va parler aujourd'hui, c'est aussi un livre de lecture. C'est aussi un livre qui se promène dans un corpus littéraire, qui découvre, ouvre des livres, les lit de près. Et c'est pas n'importe quel corpus littéraire. Et c'est aussi un livre qui se demande comment lire. Du coup, c'est vraiment un livre pour le Book Club. Et c'est presque un livre qui peut nous servir à nourrir un questionnaire lecture de début d'émission en vous demandant peut-être de nous décrire la bibliothèque qu'il y a derrière le livre dont on va parler aujourd'hui et comment elle s'est constituée.
Cette bibliothèque, elle est constituée donc de textes, d'écrits, de livres, mais pas toujours de livres. Parfois, ouais. C'est simplement des articles. Écrit donc par des populations qu'on disait indigènes à l'époque, puisqu'il s'agit de sujets indigènes de l'Empire français. Parmi ces livres, il y a notamment, il y en a trois sur lesquels je m'arrête particulièrement, ou quatre, disons. Il y a Dogissimi de Paul Azoumé, qui est un roman publié dans les années 30 par un écrivain béninois, aujourd'hui fort oublié. Il y a un livre de Philly Dabo Sissoko, qui s'appelle Crayons et portraits, qui était commencé dans les années 40, Philly Dabo Sissoko étant malien. Jean-Joseph Rabé-Arrivel, un auteur malgache, un poète malgache, et puis aussi des textes de Sangor. Léopold Sédar Senghor, donc le poète et futur homme politique sénégalais. Alors comment je suis tombé sur ces livres-là? Je ne suis pas tombé sur eux selon à chaque fois le même chemin. Concernant Azoumé, au départ c'était une question, en fait c'était une question un peu savante. C'est que je me suis demandé, bon je suis en quelque sorte un historien de l'anthropologie, ça fait longtemps que je travaille sur la question de l'histoire de l'anthropologie française et du rapport de l'anthropologie française et des ethnologues français à la littérature. Et donc, je me suis demandé s'il existait des écrits ethnologiques, écrits non pas par des métropolitains, si vous voulez, mais par des autochtones. Je me suis posé cette question-là aux États-Unis, parce que j'étais professeur à Columbia University à New York à l'époque, et dans la tradition anthropologique américaine, il y a des ethnographes autochtones. Et donc, c'est-à-dire donc des populations qui sont à la fois... l'enquêteur est aussi un membre de la population, si vous voulez. Et donc, je me suis demandé s'il existait des équivalents français. En fait, il en existe, mais selon des modalités très, très particulières. Et le premier qui est tombé sur ma route, c'est Paul Azoumé, cet écrivain béninois, né en 1890, qui écrit, alors c'est cet ouvrage... un peu fascinant aussi parce qu'il est oublié, qui s'appelle Dogissimi, qui est un grand roman historique, qui paraît en 1938. C'était une sorte de trouvaille, hein. C'est-à-dire que j'avais jamais entendu parler de ce livre, et puis j'étais très étonné que...
Et vous l'avez trouvé où?
Sur un site
que je ne peux pas
donner. Voilà, dont je ne peux pas donner le nom. Non, mais voilà, au départ, j'ai entendu parler, je ne sais même plus comment. Au départ, je sais. Parce qu'au départ, à Zoomé, je regardais la collection des travaux et mémoires de l'Institut d'ethnologie de Paris. Et donc, on y trouve des signatures. On trouve les signatures de Léris, de Griot, donc d'anthropologues français très connus. Et il y avait une signature d'un nom qui n'était pas un nom en consonance française, qui était celui-là, Paul Azoumé, qui a écrit Le pacte de sang au Dahomey, et puis du même auteur, Doggy Simi, paru aux éditions La Rose en 1938. Donc au départ, c'est ça, c'est une sorte
la
de
curiosité.
Bibliographique, intellectuelle. Et puis voilà, puis du coup, j'ai mis le pied dans la porte de cette bibliothèque coloniale, cette espèce d'immense continent d'écrits qui ont été produits massivement, évidemment, au moment de la conquête, et puis ensuite de la domination coloniale elle-même. Et ce continent de livres, d'écrits, il est un peu oublié, il est difficile d'accès, on ne sait pas exactement comment le prendre. Mais une fois qu'on y a mis un pied, c'est difficile d'en sortir, parce qu'il y a quelque chose de fascinant, en fait, dans cette masse d'écrits qui conjugue désir de savoir, désir de pouvoir, etc.
Oui, d'autant plus qu'ensuite, et on viendra dans la deuxième partie de cette émission, il y a une très grande question qui fait vibrer tout votre texte, qui se demande quel statut donner à ces textes-là, que ce soit des livres ou des articles, avec quels yeux les lire, même se méfier de savoir avec quels yeux les livres est déjà une posture que l'on prend par rapport à ces textes-là. Enfin, vous réfléchissez beaucoup à quel genre de texte vous avez dans les mains, Vincent Debanne. Qu'est-ce qui vous prédestinait, sinon votre culture scientifique et votre pratique de l'histoire de l'anthropologie, à aller voir du côté de cette littérature? Vous êtes plutôt un lecteur de quel type à la base, avant qu'on vous retrouve en train d'essayer de composer une vaste bibliothèque coloniale?
Au départ...
Il y a des signes de ça ou pas spécifiquement?
Au départ, il y a un intérêt pour l'anthropologie qui est ancien, si vous voulez, qui a pour le coup des racines biographiques toutes bêtes. J'étais coopérant à Madagascar, je suis revenu de Madagascar. Alors, à Madagascar, j'ai découvert une poésie quand même malgache, donc c'est ça, voilà. Je suis pas venu à tous ces livres par le même chemin. Il y a aussi ça, c'est qu'en fait, je connaissais l'œuvre de Jean-Joseph Rabé-Rivel bien avant même de devenir, de faire mes études, enfin, de continuer mes études.
Donc ça, c'est découvert à Madagascar.
Voilà, ça, c'est découvert à Madagascar. Au retour de Madagascar, je m'intéresse à la question du voyage, de l'anthropologie, etc. Et voilà. Et donc, de proche en proche, j'ai quand même eu cette rencontre pour moi qui était fondamentale avec Lévi-Strauss, si vous voulez. La première partie, disons, de mon travail avant ce livre-là, ça a été une étude de la tradition anthropologique française telle qu'elle a été notamment incarnée par Lévi-Strauss et par ce qui pour moi reste un livre absolument fascinant et dont on n'a pas fini de faire le tour, qui est Triste Tropique. Mais voilà, le croisement entre ces préoccupations-là et puis d'autre part cet ancrage aux États-Unis, ces questionnements aussi sur lesquelles s'appuie l'anthropologie, parce que si vous voulez, l'anthropologie, à la différence d'autres sciences humaines, elle a cette particularité de travailler avec des voix. Enfin, elle travaille avec des paroles, qui sont les paroles des gens qu'on interroge, ceux qu'on appelle les informateurs. Du coup, je m'intéresse beaucoup
à ce statut-là.
Et voilà, donc il y avait un croisement, si vous voulez, entre des lectures de plaisir et puis des questionnements et puis des explorations un petit peu de bibliothèque. Ouais.
Alors on va y venir vraiment aux outils que vous déployez et à l'appareil théorique que vous déployez autour de ce corpus-là. Mais justement, dans ce premier temps-là de vous envisager en tant que lecteur, quel genre de plaisir vous avez trouvé à ce corpus littéraire, bon, qui est... Si on prend par exemple que ces quatre exemples-là qui est aussi divers, mais qu'est-ce qui vous plaît là-dedans avant d'en faire un objet d'étude, si vous parvenez à le dissocier?
Alors en fait, je vais peut-être vous décevoir, mais c'est qu'en fait, c'est pas le plaisir qui était le moteur, en fait. Le moteur, je peux pas dire que j'ai éprouvé du plaisir d'abord à la lecture de ces textes. En fait, j'ai éprouvé une gêne. J'ai éprouvé une sorte d'inconfort ou de... Mais c'est ça qui m'a paru mériter une enquête, si vous voulez. Je pense qu'en fait, le plaisir, ça s'apprend, ça se cultive. Et donc, c'est pas des rencontres comme ça. Enfin, bon, peut-être Rabé-Rivel, c'est peut-être un peu différent, mais...
Il n'y a pas de choc esthétique, quoi.
Il n'y a pas de choc esthétique.
Vous dites pas, incroyable, quelle pépite je découvre là.
Voilà. En fait, non. On ne trouve pas de pépite. En tout cas, voilà. Mais la question, ce texte-là suscite une sorte de malaise ou de je sais pas comment le lire. Il me paraît bizarrement anachronique. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse, dans mon propre schéma mental, j'ai du mal à comprendre qu'en 1930, on puisse écrire un roman historique inspiré de la rhétorique antique et de choses comme ça. Et donc, j'interroge, en fait. Au départ, il y a une impression de lecture, mais c'est une impression de...
D'inconfort,
de gêne, pas de plaisir. Et puis, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que une fois qu'on a, ça c'est ce que font les. Bon, moi, je suis quand même un littéraire de formation, et c'est ce qu'on fait dans les études littéraires. C'est-à-dire que on apprend, on s'acclimate, et on apprend à aimer. On apprend à aimer. Et du coup, je peux dire que ces livres qui ne m'ont pas d'abord séduit, j'ai appris à les aimer.
C'est-à-dire avec tout le savoir que vous avez a posteriori construit autour d'eux, ou à les aimer finalement pour un contenu littéraire propre?
Je les aime parce que je parviens mieux à les lire, c'est-à-dire du coup je parviens mieux à comprendre, en fait, je parviens mieux à les comprendre, et puis il y a une beauté qui m'était inaperçue initialement. Parce que, précisément, cette sensibilité esthétique-là, elle se construit, elle se cultive, et elle est, en particulier, déterminée par, quelquefois, par des situations de pouvoir. Donc, il s'agit aussi de désapprendre, en fait, si vous voulez. Il s'agit de désapprendre certains réflexes de lecture pour pouvoir revenir ensuite au texte et, éventuellement, y trouver des beautés qui n'apparaissaient pas au premier abord, si vous voulez.
Ça, c'est une situation d'apprentissage, désapprentissage de lecture. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments dans votre parcours, Vincent Debanne, où vous avez eu l'impression que quelque chose vous apprenait à lire autrement? Si on passe sur la prime enfance et les premiers apprentissages de la lecture, est-ce qu'il y a des choses, des étapes où vous vous êtes dit « Ah tiens, ça fait vraiment de moi un nouveau lecteur ».
Oui, bon, de ce point de vue-là, j'ai une expérience assez pas très originale. C'est l'école. Enfin, moi, j'ai des souvenirs d'école, en fait, d'explications de texte. C'était les lettres de mon moulin quand j'étais en cinquième. Ensuite, Baudelaire. Je suis quand même beaucoup venu à la littérature par l'école, et donc c'est un apprentissage scolaire d'attention à la finesse du grain, au détail de la textualité des poèmes, des romans.
Dans ce que vous faites aujourd'hui?
Bah oui. Oui, c'est ça. C'est parce que si effectivement au point de départ il y a ce trouble à la lecture.
C'est bien que vous êtes capable d'être attentif.
Voilà, ouais. C'est ça. Ouais. Et puis en fait il faut essayer de le déconstruire, c'est-à-dire de comprendre d'où vient la gêne, et donc par exemple reconnaître en fait dans ce roman de 1938 des formes de la rhétorique antique qu'un savoir, effectivement, il y a un savoir, si vous voulez. Un savoir, une pratique, c'est toujours un peu mélangé, si vous voulez. C'est un savoir, une pratique qui vous permet d'identifier, en fait, et donc de transformer aussi sa sensibilité. C'est quand même ça qui est important.
Qu'est-ce qu'il y a comme place dans votre vie, Vincent Debanne, pour une autre forme de lecture aujourd'hui, qui ne serait pas celle de l'étude, qui ne serait pas celle qui rentre là dans un corpus nourrissant votre réflexion et votre recherche d'histoire de l'anthropologie?
Moi, je lis beaucoup. Je lis beaucoup, un peu tous azimuts, si vous voulez. Je lis beaucoup. Je sais pas comment dire. Le savoir invite à faire des découvertes, et les découvertes déplacent les entreprises. Les entreprises de savoir. C'est un peu comme ça. C'est un peu une sorte de va-et-vient.
Tout se nourrit, il n'y a pas vraiment, par exemple, moi, si je faisais cette distinction bête et méchante de vous imaginer lire d'une certaine manière pour écrire ce livre-là à la librairie du 21e siècle et, je ne sais pas, sur un canapé ou sur un banc public avec un autre forme.
Non, tout est
un continuum pour vous.
C'est ça, oui. Enfin, non seulement c'est ça, puis je pense réellement En fait, je pense qu'il n'y a pas de raison d'opposer une lecture savante, d'une part, qui serait érudite, nourrie d'un savoir extérieur, et puis d'autre part, une lecture de plaisir. Je pense réellement, comme je vous disais, la sensibilité, elle s'éduque. Et donc, je veux pas partager les deux. Et je suis assez réticent devant l'idée que les rencontres, au fond, avec les textes, ça serait des rencontres qui seraient débarrassées de tout savoir. Parce qu'en réalité, quand il n'y a pas de savoir, c'est autre chose qui prend la place, et c'est l'ignorance. C'est l'ignorance ou c'est l'autorité. Donc, en fait, je pense que j'ai pas cette pratique-là qui consisterait d'un côté à avoir des lectures de loisirs et de plaisir, et l'autre côté des lectures savantes, très sérieuses en fait. Je circule de l'une à l'autre.
Et puis surtout, vous démontrez quand même dans ce livre-là qu'en réalité, ça n'existe pas. C'est-à-dire que la manière dont on arrive devant un texte est quand même assez déterminée par le savoir que l'on peut développer sur son endroit de production, son moment de production et la capacité qu'on a de le recevoir.
Absolument.
Donc de fait, vous annulez même la question. On va parler de votre texte en précision juste après Massa Tiono de Diogal.
Mama Khadija Bay, Massa Tiono, Massa Tiono, Massa Tiono. Mama Khadija Bay, Massa Tiono, Massa Tiono, Massa Tiono. Yang so haye najbu tang bi yangi yanu sanjay liyakan saborom yang so haye najbu tang bi yangi yanu sanjay jubal sapalas ba yang so haye najbu tang bi yangi wullo yonne mati jite Yang so haye najbu tang bi yangi yanu sanjay jubal sapalas ba yang so haye najbu tang bi yangi yanu sanjay dia kan saborom yang so haye najbu tang bi yangi wullo yonne mati jite
France Culture Le Book Club, Marie Richeux.
On a tendance dans les milieux coloniaux à considérer d'un œil goguenard les tentatives faites par les Noirs dans le domaine artistique et littéraire. Bornez-vous au conte d'enfants, appliquez-vous à peindre un clair de lune sur le sable blanc du littoral, prenez garde de vous aventurer dans les récits historiques, exercez-vous à la comédie et laissez-nous le soin de cultiver l'art dramatique qui dépasse votre entendement. Tels sont, en quelques mots, les conseils que nous prodiguent avec un sourire de bonhomie des gens autorisés par leur expérience coloniale et leur sens profond de la psychologie de notre race. C'est un extrait d'un article signé Mamadou Dia, figure sénégalaise importante du milieu du XXe siècle et qui fut notamment à la tête du pays auprès de Léopold Sédar Senghor avant la crise de 62. L'article s'appelle « Littérature et préjugés ». Il paraît, lui, en 1942 dans un journal qui s'appelle « Paris-Dakar ». Mamadou Dia s'y agace, sans le dire exactement, d'un paternalisme colonial en matière d'écriture, critiquant, je cite, « un système d'idées arrêtées, de forces inhibitrices qui paralyse les plus beaux élans, aussi bien du côté européen qu'indigène. » Cet article, on le trouve dans votre livre, Vincent Debanne, parmi tous les textes d'un corpus que vous regardez de près, en vous demandant comment les regarder, comment lire le plus justement possible aujourd'hui, des dizaines d'années plus tard, des textes produits par des auteurs dits indigènes en période et en système coloniaux. La source est le signe Anthropologie, littérature et paroles indigènes, apparu aux éditions du Seuil dans la collection La Librairie du XXIe siècle. Peut-être on a commencé à travers ce questionnaire lecture qui commençait de vous rencontrer, Vincent Debanne, en faisant votre portrait de lecteur de ce corpus-là, en citant quelques textes qu'on a essayé de décrire, mais peut-être que on continue en précisant la période dont on parle, les textes dont on parle, et de quoi exactement, à propos de quoi l'on s'interroge.
Bon, le corpus, puisque c'est comme ça qu'on dit dans les études littéraires ou en histoire aussi, le corpus, il est assez simple. En fait, il s'agit des premiers textes écrits en français par des Africains. Et donc, les bornes historiques, c'est 1910, premier dictionnaire français bambara par Moussa Travélé. Donc ça, c'est le début, si vous voulez, c'est la première fois qu'il y a un texte publié, écrit en français et publié par un sujet indigène de l'Empire français. Et puis ça continue, voilà, je suis au fond ces écrits jusqu'à Senghor, en fait, au moment où Senghor arrive à Paris, donc Senghor, le père fondateur de la négritude, grand poète, bien sûr. Et donc l'idée, c'est de...
Et là, c'est quelle date, puisqu'on aborde avec 1910
1945, enfin voilà, la Deuxième Guerre mondiale, si vous voulez. Je m'arrête plus ou moins là. Je m'arrête au moment où Senghor sort des... retrouve Paris occupé, il était emprisonné, il est libéré en 1942, donc c'est à peu près à ce moment-là. Au moment où, en fait, il s'intéresse à la poésie orale de son pays d'origine, de son terroir d'origine. Et en fait, l'idée, c'est de suivre, au fond, ce qui m'a intéressé, si vous voulez, c'est de me rendre compte que tous ces auteurs qui ont commencé à écrire des textes littéraires au sens courant, hein, des poèmes, même du théâtre, dans les années 30, qui pour la plupart sont oubliés, en fait, presque tous, ils ont commencé leur carrière comme informateurs d'administrateurs coloniaux, informateurs d'anthropologues, d'ethnologues.
C'est pour ça que vous commencez votre texte, votre étude, par réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un informateur.
Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un informateur ? Qu'est-ce que c'est qu'un informateur et qu'est-ce que c'est que la parole d'un informateur ? Et donc voilà, au fond, c'est un livre qui retrace une histoire, qui retrace l'histoire d'une autonomisation. C'est comment est-ce qu'on est passé d'une parole... Parce que les premiers textes écrits en français par des Africains, c'est quoi ? C'est des textes de linguistique, c'est des textes sur les histoires, sur les mœurs, les usages, dont la puissance coloniale avait besoin pour mieux gouverner. Donc en fait, elle sollicite ce qu'on appelait les indigènes lettrés en leur demandant de faire des études, donner des études sur les marchés alimentaires, les usages, les systèmes d'héritage, la langue d'abord. Hein, c'est pour ça que c'est d'abord
un dictionnaire.
Un dictionnaire. Et donc, on voit que ces indigènes lettrés, c'est ce que l'administration appelait les élites lettrées indigènes, répondent au fond à cette demande. Ils publient leurs premiers textes, parfois anonymement. Et puis, ce qu'ils font aussi beaucoup, c'est qu'ils éditent des contes, enfin des légendes, hein, légendes, toute une littérature orale locale. Et puis, progressivement, ces voix-là vont, ces gens-là, qui sont au départ des informateurs, vont progressivement devenir des auteurs. Alors, auteurs de textes savants, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment faire des études monographiques sur des points précis d'histoire précoloniale, etc. Et auteurs de textes littéraires. Et donc, en un sens, ce que je fais, c'est que j'essaie d'analyser ce qu'on pourrait appeler une logique, une autonomisation de la parole. Au départ, on est dans une situation de réponse à une commande. Donc, en fait, d'hétéronomie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un discours qui reçoit sa loi d'ailleurs. Au fond, ça ressemble un petit peu à un travail scolaire, en quelque sorte. Hein. On leur demande des rédactions sur... D'ailleurs, concrètement, je m'intéresse beaucoup à des cas comme cela.
On va y venir, presque aux demandes des pédagogues coloniaux, mais voilà. En effet, donc premier moment, on va dire, réponse à une demande, mais une demande en plus d'autorité coloniale, donc
voilà,
un système très particulier de production d'une parole et d'un écrit, et ça va vers une automisation, et d'ailleurs vous prenez Senghor en cas limite, on va dire, de votre corpus, vers quelque chose qui dépasse très largement ce cadre de production et qui veut un en dehors, finalement.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, j'essaie de retracer comment est-ce qu'on passe, en fait, d'une parole hétéronome, on peut dire, hein, donc d'une parole en tout cas sollicitée en réponse à une demande venue des autorités, à une parole autonome qui va prendre la forme, évidemment, chez Senghor, du recueil de poèmes.
Il y a aussi, mais on y viendra tout de suite avec une question d'auditeur, Vincent Debanne, c'est à la fois, vous suivez comment on passe une évolution, d'ailleurs, c'est pas que de 1 à 1, c'est plusieurs degrés de production d'écrits et de statut de l'auteur, mais il y a aussi plusieurs décennies plus tard, quel regard on a, ou quel genre de lecture on a, et qu'est-ce que suppose de connaissance de l'histoire, de rapport politique à ces textes-là, notre lecture bien des décennies après. Ce sont deux mouvements différents. Ouais. On a parlé de Mamadou Dia, je l'ai cité dans cet article de 1942. On va écouter une archive qui est malheureusement pas datée, mais il parle de son vécu dans une école qui s'appelle William Ponty, dont vous parlez largement, Vincent Debanne.
Donc, Ponty, je crois vraiment, c'est donc à Ponty, je crois qu'il y a eu chez moi une certaine, certain remaniement, même de ma personnalité, une certaine restructuration, n'est-ce pas, de ma personnalité. Je découvrais, n'est-ce pas, les joies de l'étude, les joies de la littérature française, les joies de la lecture. Joie également, n'est-ce pas, des mathématiques, donc de la spéculation, n'est-ce pas, la spéculation intellectuelle. Et ceci devait, n'est-ce pas, me marquer pour le reste de ma vie. Mais il y a aussi une autre influence, je crois, que j'ai subie à Ponty. C'est à Ponty, je crois, que j'ai découvert aussi le fait colonial. Le fait colonial ressenti d'ailleurs comme du racisme à la suite de l'affaire du brevet. Donc Dupont avait organisé, n'est-ce pas, tout l'enseignement de l'école pour faire de Ponty une véritable école normale. Et il a engagé une lutte. C'était quelque chose à l'époque, tu ne peux pas te l'imaginer, c'était quelque chose d'extraordinaire, c'était une véritable révolution. Et ça a été ressenti d'ailleurs dans les milieux de l'administration de l'époque, de l'administration coloniale, comme évidemment, il était considéré comme un subversif.
C'est la voix de Mamadou Dia dans une archive non datée mais diffusée sur RFI en 2018, donc 9 ans après sa mort. Vincent Debanne, qu'est-ce que c'est que cette école William Ponty? Pourquoi est-ce que c'est si important quand on s'intéresse à ces textes produits par des auteurs africains dits indigènes à l'époque, à partir de 1910?
L'école normale William Ponty, c'est une école qui était destinée qui a été fondée en 1903 et qui prend le nom de William Ponty en 1915 et qui va durer en fait jusqu'aux années 50, qui était destinée à la formation des élites africaines de l'AOF, hein, de l'Afrique occidentale française. En quelque sorte, c'est quelque chose comme l'ENA, si vous voulez, une sorte d'ENA africaine, qui a été beaucoup étudiée par des historiens très 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 compétents, beaucoup plus compétents que moi sur en histoire de l'Afrique coloniale, si vous voulez. Et c'est là qu'ont été formés, en fait, bien des dirigeants de ce qu'allait devenir l'Afrique indépendante. Après 1960, Houphouët Boigny, quelqu'un qui a fait William Ponty, Modibo Keïta, etc., etc. Et donc, c'était une sorte de pépinière où on mettait les meilleurs élèves, vraiment les meilleurs, les tout meilleurs, venus de différents pays, hein, donc venus de toute l'AOF, parlant différentes langues, et qui se sont retrouvés comme ça, qui se retrouvent pendant 3 ans à l'internat, avec pour mission de devenir les fers de lance l'Afrique française future.
Mais là, on l'entend, c'est-à-dire que vous, ce qui vous intéresse, c'est pas tant, vous le dites, d'autres l'ont fait, de faire l'histoire de cette école-là, mais c'est de voir en quoi est-ce que ça a fabriqué des auteurs, quoi est-ce qu'il y a eu une demande, quelque chose qui a façonné du littéraire ou de la littérature. Et Mamadou Dia utilise 2 mots très importants, il parle de remaniement de sa personnalité et de restructuration de sa personnalité, ce qui, quand on s'intéresse au phénomène d'autorialisation, de qu'est-ce que c'est qu'un auteur de cette époque-là, et quand même, sont des mots très forts.
Ouais. C'est effectivement des... C'est une école en fait qui forge des individus et donc qui à la fois les éduque, si vous voulez, et donc leur donne en un certain sens une autonomie, mais en même temps leur donne une autonomie qui est très très contrôlée et qui est très déterminée par l'appareil de pouvoir dans laquelle elle s'inscrit.
Et qui est très orientée idéologiquement, c'est qu'il y a aussi des textes pédagogiques qui disent ce que l'on doit enseigner à ses élèves et comment on doit leur enseigner et avec quelle intention. Ça fait froid dans le dos, Vincent Debanne.
Oui, oui. Alors, c'est toute la difficulté de cette école et en général de ces individus appartenant à ceux qu'on appelait les élites lettrées ou les élites indigènes, si vous voulez. C'est que d'un certain côté, ce sont des bons élèves et en un sens, il y en a beaucoup qui vont être dénoncés comme des quasi-collaborateurs avec l'appareil colonial. Et il y aura aussi, dans les années 70, un mouvement, en fait, de rejet de l'école normale William Ponty, comme une école, en fait, qui aurait préformé, en quelque sorte, endoctriné les élites africaines, leur aurait enlevé, en quelque sorte, toute liberté de pensée. Alors, c'est sans doute excessif de voir les choses comme ça. Et ce qui m'a notamment intéressé dans la formation à William Ponty, c'est le fait que, en troisième année, les étudiants avaient des devoirs de vacances. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient scolarisés donc à Dakar ou à Gorée. Enfin, l'école a changé de lieu, mais bon, au Sénégal, en tout cas. Ils étaient scolarisés et en fait, l'été, ils retournaient dans leur province d'origine et ils avaient pour mission de faire des devoirs de vacances, d'écrire un petit mémoire sur leur province d'origine. Et donc, on a ces cahiers Ponty, il y en a presque 800, qui sont produits par ces élèves, qui sont des élèves, des futurs, la plupart d'entre eux vont devenir instituteurs, donc on les appelle des élèves maîtres, et qui documentent, écrivent, alors quelquefois sous une forme autobiographique, quelquefois sous une forme presque quasi romancée, qui écrivent des choses sur leur pays d'origine. Donc qui adoptent sur eux-mêmes, à la demande de l'autorité coloniale, un regard extérieur en s'inspirant alors de leur lecture de la littérature française. Donc ça peut être Les Femmes savantes de Molière, ça peut être le roman colonial, etc. Donc ça donne, c'est typiquement, ce sont des textes très bizarres qu'on ne sait pas bien comment lire. En un sens, c'est des copies de bons élèves dociles et obéissants. En un autre sens, c'est des textes où émergent des considérations. C'est ce que dit Mamadou Dia, en fait. Mamadou Dia dit, en fait, c'est à la fois une école où on m'a restructuré, on m'a en quelque sorte endoctriné.
Façonné, ouais.
Façonné, mais d'un autre côté, c'est aussi là que j'ai compris ce que c'était que la colonie. C'est aussi là qu'il y a des solidarités entre les différentes langues, par exemple, entre les différents pays d'origine se sont construites, etc. Donc, c'est quelque chose de fondamentalement ambivalent.
Et ça, c'est du côté de la production. Ensuite, du côté de la réception, on y vient, Vincent Debanne. Il y a aussi l'idée que de ces copies de vacances Ponty, eh bien, ces futurs auteurs, futurs professeurs et parfois futurs dirigeants produisent un savoir d'observation, certes, on pourrait dire avec milliards de biais, mais sur des endroits, des moments du continent africain, par ailleurs, peu regardés, pas écrits, ou alors regardés et écrits que par la puissance coloniale française. Et donc, en ce sens-là, deviennent l'un des deux mots de votre titre, c'est-à-dire une source.
Oui, c'est ça. Oui. Alors, ce qui c'est évident, et c'est comme ça que d'abord que c'est conçu. Si vous voulez, ces écrits-là, ils sont conçus comme une source pour un savoir colonial. C'est pour ça qu'on sollicite les indigènes lettrés, c'est qu'on leur demande. On a besoin de leur savoir parce que ce savoir, enfin ce qu'ils savent, encore une fois, des pratiques locales, doit servir de source à un savoir colonial qui permettra de mieux administrer, mieux dominer, mieux diriger, mieux gouverner. Mais malgré tout, quand vous donnez la parole à quelqu'un, vous courez toujours le risque qu'il apprenne. qu'il apprenne et qu'il en fasse, quelque chose d'autre que ce à quoi vous la destiniez initialement.
D'où le côté très hétérogène et bizarre de votre première lecture.
Voilà. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, à la fois, c'est des textes qui apparaissent comme des produits de aliénés, en fait. Voilà, des produits aliénés. Mm-hmm. C'est des textes aliénés. Parce que souvent, ce sont des textes très francophiles aussi. Hein. Ce sont des textes, Azoumé, il écrit, c'est quelqu'un qui écrit un roman historique précolonial, mais qui écrit aussi des articles où il raconte son bonheur de voir le drapeau français flotter sur le Dahomey, etc. Donc, ce sont des textes qui sont, en un sens, des textes aliénés, mais où aussi se dit autre chose, émerge d'autre chose. C'est ça qui m'intéresse. Si
vous... Parce que c'est aussi ça que produit votre étude, Vincent Debanne, c'est que dans le geste de l'écriture, il y a une liberté qui affleure, quoi, ouais. Par surprise, par la bande, dans les interstices. Et bon, ça fait quand même penser à des choses que pouvait dire Fanon sur la place du rêve, la place du sujet dans le système colonial, au fin fond de l'oppression. Tout n'est pas détruit, la liberté, le sujet, le libre arbitre demeurent vibrants, et il y a un peu de ça qui transparaît dans l'étude que vous faites.
Oui, c'est ça. C'est cette idée qu'en fait, c'est une logique. Bon, Foucault parle de logique d'assujettissement. Ça veut dire que c'est à la fois d'une logique c'est à la fois une logique d'assujettissement, et puis une logique aussi de subjectivation. C'est-à-dire le sujet, c'est à la fois celui qui est soumis, mais c'est en même temps celui qui émerge, qui s'émancipe, qui s'affirme, etc. Et donc, c'était ça qui était très intéressant aussi vous citiez l'article de Mamadou Dia. C'est un article qui est stupéfiant, qui est écrit en 1942, où il montre comment, en réalité, on leur donne la parole à ces élites africaines, et en même temps, on leur interdit certains genres, mais en même temps, c'est trop tard. Qu'ils ont mis le doigt dans la création littéraire, en se donnant à une langue qui n'est pas la leur, en se donnant à une culture qui n'est pas la leur, ils vont faire des choses qui n'étaient pas prévues.
On écoute la voix de Edouard, il vous pose une très grande question.
Bonjour le Book Club, bonjour Vincent Debanne. J'ai adoré pouvoir me plonger dans les écrits de Léopold Sédar Senghor et dans la porte d'entrée quelque part que vous nous faites à cette matière de sciences humaines et au lien avec la littérature. J'ai évidemment énormément de questions qui me viennent, mais la principale pour moi, ce serait comment lire une parole indigène, non pas comme un document, mais plus comme une œuvre. Voilà, je vous remercie pour votre réponse.
Et elle arrive à point nommé. C'est nous qui vous remercions, Edouard, pour cette lecture et pour cette question. Elle est vaste et en même temps, elle est bien, cette question, Vincent Debanne. Comment on fait? Donc, ok, on a vu à peu près, rapidement, évidemment, hein, le statut qu'on pouvait donner à cette production littéraire si particulière. Comment on fait pour le vivre? C'est le lapsus que j'allais faire, mais pour le livre, mais bon, en même temps, c'est intéressant comme lapsus. Comme une œuvre et non comme un signe et non comme une source, quoi.
Ouais. En la lisant. Pardon de répondre comme ça, mais
c'est
il faut la lire en fait. C'est-à-dire il faut lire avant de classer. C'est ça le truc. Il faut lire avant de classer. Il faut lire ces textes, patienter, ne pas juger trop vite. C'est pour ça aussi que je vous dis il y a quelque chose là-dedans qui est un peu de l'ordre de la défense des études littéraires. C'est-à-dire il faut patienter, se méfier de soi. Se méfier des réflexes. On lit un truc de Hazoumé, on a tout de suite envie de dire oh là 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 là, c'est un truc de bon élève. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir ce réflexe-là? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette idée qu'un bon élève ne peut pas écrire de la bonne littérature.
Mais d'ailleurs, il y a tout un passage où vous étudiez la critique d'un lyrisme africain. Ouais. Il faudrait leur enlever le goût de trop de fioritures. C'est aussi un réflexe. C'est intéressant de voir des héritages coloniaux, des héritages racistes dans des regards portés sur une certaine littérature, Vincent Debanne.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, typiquement, la question du bon élève. On dit, c'est une littérature scolaire, c'est ça qu'on dit. En fait, quand on lit ça, le premier truc qui vient à l'esprit aussi, c'est pas juste un jugement intellectuel, c'est-à-dire on lit ça, on dit, oh là, c'est un peu scolaire. Et on va trouver cette idée d'une littérature scolaire très très tard, même dans des textes effectivement anticoloniaux. Vous lisez Sartre, par exemple. Sartre, qu'est-ce qu'il va faire dans Orphée Noir, la préface à l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache dirigée par Senghor, il lit les textes d'un poète martiniquais qui s'appelle Étienne Leroux et il dit ce sont de bons devoirs d'élèves. Ce sont des textes automatiques, ce sont de bons devoirs d'élèves. Et pourtant, Sartre, on peut pas l'accuser de colonialité, si vous voulez, de colonialisme. Et pourtant, il y a ce truc, c'est qu'en fait, lisant un auteur noir, il va chercher, il va reconnaître, il dit oui, il y a un effort, il y a trop d'efforts. Qu'est-ce que ça veut dire que de reconnaître, que de croire? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est ce jugement qu'on trouve aussi même chez Marguerite Duras dans Le Marin de Gibraltar? Elle parle de Hazoumé, qui d'ailleurs elle dit Dossigimi au lieu d'écrire Dogissimi, et puis elle dit voilà, c'est un livre écrit par un instituteur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que ce type de jugement dit de nos lunettes à nous. Mmh. C'est pour ça que je fais un truc, la deuxième partie du livre s'appelle Écrire en pays dominé, lire en pays dominant. Qu'est-ce que ce jugement qui consiste à trouver ça obsolète, archaïque,
trop fleuri, trop lyrique, trop verbal,
trop bon élève, qu'est-ce que ça dit de nos lectures à nous? Mmh. Et est-ce qu'on peut déplacer ça? C'est ça, au fond, la question.
Et alors, justement, si on va un tout petit peu plus loin, est-ce qu'on peut déplacer ça? Donc, vous répondez à Edouard, oui, on peut en lisant, en étant pas en prenant finalement ces objets au sérieux, mais ça, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, faisons-le pour tous les textes, Vincent Debanne. Qu'est-ce qui agite là? Qu'est-ce qui s'agite là d'un petit peu plus difficile, peut-être, pour ces textes-là? Parce que ça demande de la déconstruction. On a dit tout à l'heure tout ce que ça faisait du bien d'avoir un peu de savoir dans les poches. Ouais. Donc ça demande aussi une connaissance de l'histoire coloniale, de l'histoire de ces pays.
Oui, ça demande pas. Je pense pas que ça demande une connaissance, si vous voulez. Ça demande pas forcément un savoir en tant que tel. Ça demande simplement de la lenteur, de la patience et encore une fois une sorte de peut-être de méfiance.
Mais de méfiance au sens de la déconstruction quand même de certains préjugés. Je reprends le texte de Mahmoud Oudia qui dit littérature et préjugés.
Oui, c'est ça. Au sens où quand moi je lis Rabbé Arivel. Bon, Rabbé Arivel, ses poèmes, ils sont publiés en 1927, 1928, etc. Alors, il écrit des Alexandrins. Alors moi je me dis les Alexandrins, en 1928, à Paris à l'époque, c'est le surréalisme, etc. Donc mon réflexe, ça va être j'ai trouvé ça tout de suite obsolète, archaïque. La lenteur, ça consiste à les lire malgré tout, en essayant d'oublier un instant qu'on est en 1928, et peut-être même en se demandant qu'est-ce que ça veut dire que ce réflexe qu'on a, qui consiste à toujours chercher la date de ce qu'on lit pour avant de le lire. En fait, peut-être il faut suspendre la question de la date, se dire, oublier qu'en fait Dogissimi, ça a été écrit en 1938.
Accueillir, quoi.
Accueillir, voilà. Accueillir, absolument. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose là-dedans d'ethnologique aussi, au sens où c'est une démarche, au fond, qui consiste à se disposer, essayer de se défaire de certains réflexes impensés, en fait, qui sont culturels, tout simplement, culturels, qui sont aussi hérités, sans doute, voilà, de positions de pouvoir. Et,
qui sont pas sans doute. Enfin, vous faites la démonstration qu'ils sont hérités de positions de pouvoir, non?
Oui, bah, c'est, oui. C'est-à-dire
c'est bizarre que vous le pondériez. Parce que vous faites quand même la démonstration non, que c'est que... tellement pris dans une position de pouvoir, c'est même pris dans une position d'oppression.
Bah, c'est-à-dire, non, mais je veux dire, ce que j'interrogeais là, c'était plutôt les réflexes les impressions de lecture qu'on a. Il y a des impressions de lecture qui sont dues tout simplement, qui n'ont pas de rapport avec la domination coloniale. Le fait que, voilà, le fait qu'on cherche toujours la date. Qu'on soit
sauf Hélène Cixous.
Pardon?
Sauf Hélène Cixous, je renvoie tous nos auditeurs à la bibliothèque d'Hélène Cixous et je disais, en bon élève, je disais, oui, alors ce texte a été publié en, je sais pas quoi, 1830 ou 1900. Elle disait, oui, enfin bon, 1830, 1940, maintenant, Marie, bon, un texte, c'est un texte.
Ah bah voilà. Ouais. Donc ça en un sens, bon, si vous voulez, ce réflexe consiste à dater toujours. C'est pas en tant que tel colonial, c'est simplement européen, c'est la façon dont on conçoit
l'histoire littéraire.
L'histoire littéraire, si vous voulez. Après il y a d'autres choses qui sont peut-être plus coloniales, c'est la façon dont Sartre va justement ou dont d'autres critiques vont recevant une poésie africaine vont toujours la trouver scolaire et on leur dit soyez plus authentiques. Alors l'injonction à l'authenticité, ça c'est quelque chose qui témoigne d'un rapport de pouvoir très très fort.
Il y a quelque chose qui, on le disait, est une figure qui veut dépasser le cadre, les tensions, presque les retourner pour soi-même comme un outil d'émancipation. Dans les textes de Cédar Sangor, où on entend, pour terminer la conversation, un texte paru dans la revue Esprit en novembre 1962, c'est Sangor.
C'était en 1937. J'enseignais alors le français avec les langues classiques depuis 2 ans au lycée Descartes de Tours. Venu passer les grandes vacances dans mon Sénégal natal, je fus sollicité de donner une conférence. J'avais choisi comme thème le problème culturel en AOF. La foule des évolués, blancs et noirs mêlés, s'écrasait dans la grande salle de la chambre du commerce de Dakar. On s'attendait à m'entendre exalter la culture gréco-latine, ou du moins la culture française. Devant le gouverneur général ébahi, je fis une charge vigoureuse contre l'assimilation et exaltai la négritude, préconisant le retour aux sources, aux langues négro-africaines. Ce fut un succès de scandale, plus au demeurant chez les Africains que chez les Européens. Maintenant qu'il a appris le latin et le grec, murmurait cela, il veut nous ramener au Wolof. Mais malgré l'indépendance politique ou l'autonomie proclamée depuis 2 ans dans tous les anciens territoires d'outre-mer, et malgré la ferveur dont jouit la négritude dans les États francophones au sud du Sahara, le français n'y a rien perdu de son prestige. La francophonie, c'est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre. Cette symbiose des énergies dormantes de tous les continents, de toutes les races, qui se réveillent à leur chaleur complémentaire. La France, me disait un délégué du FLN, c'est vous, c'est moi, c'est la culture française. Renversons la proposition pour être complet. La négritude, l'arabisme, c'est aussi vous, Français de l'Hexagone. Nos valeurs font battre maintenant les livres que vous lisez, la langue que vous parlez. Le français, soleil qui brille hors de l'Hexagone.
Texte de 1962, écrit par Léopold Sédar Senghor, publié dans la revue Esprit, où il revient en 1937 sur une conférence qu'il donne, Vincent Debanne. Pourquoi est-ce que Léopold Sédar Senghor s'est imposé comme étant la figure d'un au-delà, justement, dans le corpus littéraire que vous avez étudié?
Bah parce que Senghor, si vous voulez, c'est typiquement quelqu'un qui s'inscrit complètement dans cette histoire, au sens où vraiment c'est un bon élève. Senghor, il n'y a pas meilleur élève que Senghor. Et d'ailleurs, on dit tout le temps de Senghor, premier agrégé africain. Donc il s'inscrit complètement dans cette histoire-là. Et d'un autre côté, c'est aussi quelqu'un qui la déplace complètement. Alors il la déplace de deux façons, si vous voulez. C'est que d'abord, il a cette idée que ce qu'il appelle lui-même une littérature d'instituteur, donc tous ces textes dont on a parlé, il dit, au fond, cette littérature d'instituteur, elle est l'équivalent de ce que faisaient les moines copistes au Moyen-Âge, c'est-à-dire, ils préparaient la Renaissance. Donc, toute cette littérature savante, philologique, ethnographique...
Elle est préparatoire.
Elle prépare un avènement, elle prépare un renouveau. Et ce renouveau, c'est la négritude qui est en train de s'épanouir à Paris dans une conscience de race partagée par les Africains et les Antillais. Donc d'une part, il dit ça. Et puis d'autre part, il a cette idée que... vous avez dit, le livre s'appelle « La source et le signe ». Qu'est-ce que ça veut dire ? La source, on a expliqué ce que c'était. Le signe, qu'est-ce que ça veut dire ? Le signe, ça veut dire que systématiquement, l'administration coloniale... On disait, les textes africains, il faut les citer littéralement. Il faut les citer littéralement parce qu'il y a une couleur locale, il y a un esprit si particulier. Alors évidemment, tout ça était plein de condescendance et plein de mépris, puisqu'on s'amusait au fond de l'innocence, de la naïveté, un peu comme les perles, comme on citait les textes africains comme on cite les perles des
enfants.
Les perles des enfants. Et donc, il y avait une forme de condescendance, il y a une condescendance marquée dans le traitement de la parole africaine. Et ce que fait Senghor, c'est il dit, pourquoi est-ce qu'il faut la citer, la parole africaine? Pourquoi est-ce qu'on peut pas, la traduire? Parce qu'elle est fondamentalement poétique. Ou plutôt, il dit, le fait qu'il faille la citer, ça signifie qu'elle est poétique.
Et c'est en cela que vous écrivez, Vincent Deban, qu'il faut, pour Senghor, penser ces textes-là d'égal à égal avec le patrimoine littéraire français. Enfin, il a non seulement évidemment un projet d'égalité humaniste, citoyen, mais aussi littéraire.
Oui, il y a cette idée. Bon, Senghor, c'est quelqu'un qui va, au fond, dire la poésie. Alors d'abord, ce qui est pour lui la poésie orale dans son cas, c'est une poésie orale qui est en sérère. Il s'agit au fond de... Donc, lui, il collecte, il va vraiment sur le terrain, il collecte des chansons, des poèmes-chants, il appelle ça, et il fait dialoguer ces poèmes-chants qu'il transcrit, qu'il traduit, avec la grande tradition, parce que par ailleurs, c'est aussi un agrégé qui adore le grec et le latin, et donc il reconstruit en quelque sorte le paysage, en particularisant quand même la littérature française, puisqu'en fait, elle, d'un coup, la voilà inscrite dans un paysage beaucoup plus vaste, où elle n'est qu'une parmi d'autres, malgré tout.
Oui, et d'ailleurs, la fin de cet article de 1962, « La France me disait un délégué du FLN, c'est vous, c'est moi, c'est la culture française », il propose de renverser, et c'est pas le seul geste de renversement qu'il propose, « Renversons la proposition pour être complet, la négritude, l'arabisme, c'est aussi vous, Français de l'Hexagone, nos valeurs font battre maintenant les livres que vous lisez, la langue que vous parlez, le français, soleil qui brille hors de l'Hexagone ». C'est un texte qui a à peu près 50 ans, un petit peu plus de 50 ans. C'est un très intéressant le retournement qu'il propose.
Oui.
C'est joueur.
Oui, c'est très joueur, c'est très habile. Bon, Senghor est quelqu'un de très habile. Il a retenu ça de sa formation, une capacité argumentative et une science du compromis ou du retournement. Ce texte de 62, il est un peu bizarre aussi parce que Senghor, c'est aussi ce qu'on va lui reprocher, c'est que c'est quand même quelqu'un qui à ce discours-là, mais qui sera quand même un promoteur de la langue française et qui envisage difficilement tout de même des littératures
plus hybridées.
Plus hybridées. Au fond, il a quand même une fidélité à la grande tradition scolaire, et c'est pour ça aussi qu'il sera beaucoup critiqué ensuite, parce que comme effectivement trop francophile.
Francophile
en quelque sorte. Il reste que le geste intellectuel, il est là, il est d'hybridation ou de mise à distance en tout cas, ou de pluralisation, en tout cas, du patrimoine littéraire.
Ouais. En tout cas, un jeu, quelque chose où il y a du mouvement à un endroit où il n'y avait que de la hiérarchisation, de mise en échelle, d'un affaiblissement ou d'un appauvrissement de l'un ou de l'autre. Vincent Deban, tout à l'heure, je vous demandais quelles étapes avaient été importantes dans votre vie de lecteur et qu'est-ce qui vous avait transformé. Ça, c'est un livre qui nous propose une transformation, en tout cas, de nos positions de lectrice et de lecteur, notamment de lecteur français, héritière d'une histoire violente et coloniale. Est-ce qu'on est au début de la constitution d'un corpus littéraire encore pas complètement construit, connu, partagé ou non
Alors, je pense que oui.
On arrive en retard.
Pardon, non, mais c'est sûr que je pense que d'un côté, il y a des textes à découvrir, ça c'est vrai. Il y a une histoire aussi à réécrire. Une histoire qui soit tout simplement plus ouverte, plurielle, qui laisse davantage de place à ces écrits, qu'on ne sait pas bien comment traiter, mais qu'on n'est pas obligé de traiter comme simplement des copies de bons élèves. Donc voilà, je pense qu'on peut à la fois étendre le corpus, faire preuve de curiosité, aller voir un tout petit peu.
Et faire de l'histoire, quoi.
Et voilà, et en même temps réécrire aussi un petit peu l'histoire en oubliant les grandes scansions qui sont en fait parisiano-centrées.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et comme chaque semaine, toute cette saison, dans le Book Club, l'heure est venue de parler un peu de littérature pour les plus jeunes lecteurs et lectrices avec vous, Mathilde Wagman. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Aujourd'hui, pour cette dernière chronique de la saison, vous nous conseillez non pas un seul livre à mettre dans les sacs de vacances, mais plusieurs.
Et oui Marie, l'été, le temps des vacances, ce moment où enfin l'obligation scolaire est suspendue et où les enfants peuvent découvrir le plaisir de vivre à leur rythme et peut-être aussi celui de lire à leur rythme. La lecture comme une échappée, un remède à l'ennui, un terrain d'aventure. J'ai pensé qu'il était de mon devoir de vous recommander plusieurs idées de livres qui pourraient mettre les enfants, sur le chemin de ce plaisir-là. Et l'occasion m'en est donnée par une nouvelle collection que propose le Livre de Poche, dirigé par l'essayiste et romancière Titiou Lecoq, et qui s'appelle le Livre de mes 10 ans. 10 ans, soit l'âge où l'on peut s'aventurer seul dans la lecture et découvrir des textes que peut-être on gardera en mémoire toute sa vie. Le principe de la collection est simple. Chaque titre est préfacé par un ou une autrice qui dit pourquoi le texte qui suit a marqué son enfance. Ainsi, Mona Chollet présente-t-elle Le château des enfants volés de l'autrice suédoise Maria Grip. Alice Zeniter, le récit de science-fiction Virus LIV3 de Christian Grenier. Gaël Faye, le fameux Ils étaient 10, ex 10 petits nègres d'Agatha Christie. Et Nicolas Mathieu, le perroquet qui bégayait d'Alfred Hitchcock. Chaque volume est agrémenté d'une annexe proposant des éléments d'information sur son contexte de création. Le tout pour la somme de 5, 6 ou 7 euros en fonction de la taille du livre, pas mal.
Mais parmi les livres de cette collection, Mathilde, c'est celui qui est introduit par l'autrice Marie Dariussec qui vous a particulièrement enchantée.
Et oui Marie, des 5 premiers titres de cette collection qui paraîtront la semaine prochaine le 2 juillet, m'a tout particulièrement séduite un recueil de nouvelles d'Oscar Wilde recommandé par Marie Dariussec, en particulier la toute première de ces nouvelles qui donne son titre à l'ensemble. Elle s'appelle Le fantôme de Canterville et est traduite par Jules Castier. C'est l'histoire d'une famille américaine, les Otis, installée en Angleterre depuis plusieurs années. Lorsque le récit commence, à la toute fin du 19e siècle, Mr. Hiram B. Otis, le père, diplomate, fait l'acquisition du somptueux domaine de Canterville à quelques kilomètres de Londres. Lord Canterville, qui la lui vend, fait preuve de la plus grande honnêteté en lui exposant que le manoir est hanté. Depuis que sa grand-tante, la duchesse de Bolton, a été prise de convulsions après que deux mains de squelettes se sont posées sur ses épaules, la famille n'a plus voulu y séjourner. Confession, à quoi l'arrogant Mr. Otis répond qu'il est prêt à prendre tout le mobilier et le fantôme à leur valeur d'estimation, qu'il vient d'un pays moderne où il a tout ce que l'argent peut acheter et d'ajouter que de toute façon, les fantômes n'existent pas. Monsieur Otis, sa femme, leur fils Washington, leur fille Virginia et leurs deux petits garnements de jumeaux s'installent donc dans la demeure et à ce stade, on s'attend à ce que cette arrogance vienne être bousculée par l'apparition du spectre. Le fantôme ne tarde certes pas à pointer le bout de son nez. Il s'agit de celui de Sir Simon de Canterville qui en 1575 s'est rendu coupable de ce que l'on n'appelait pas alors un féminicide puisqu'il assassina son épouse dans la bibliothèque du domaine et hante depuis lors ses longs couloirs. Or, la première fois que le fantôme apparaît à la famille, sous les traits d'un terrifiant vieillard doté de fer rouillé aux chevilles, M. Otis lui suggère simplement de huiler ses chaînes avec un petit flacon de lubrifiant qu'il lui a apporté tout spécialement. Lorsque la nuit suivante, le fantôme lance son célèbre éclat de rire démoniaque, Mrs. Otis sort de sa chambre pour lui apporter un flacon d'élixir pour la toux. Différentes tentatives infructueuses de ce type se succèdent, dont une qui voit le malheureux fantôme se prendre un broc d'eau sur la tête dans la chambre des jumeaux, jusqu'à ce que le pauvre esprit renonce à tout espoir d'effrayer jamais cette grossière famille américaine et se contente, je cite, de rôder le long des couloirs, chaussé de pantoufles de lisière avec un épais cache-nez rouge autour de la gorge, de peur des courants d'air. Dans une deuxième partie du récit pourtant, l'histoire bascule vers une toute autre tonalité lorsque la jeune et douce Virginia, 15 ans, prend pitié du fantôme et lui permet pour finir de rejoindre pour de bon le royaume des morts.
Mais alors qu'est-ce qui vous a tant séduit dans cette histoire, Mathilde ?
D'abord, ce délicieux renversement burlesque par lequel, alors que l'on s'attend à être terrorisé par le fantôme, c'est ce pauvre bougre qui se trouve accablé par ses échecs, victoire de la comédie sur l'épouvante. Il y a aussi bien sûr la satire mordante des États-Unis. En 1887, année de parution de la nouvelle, bien des Britanniques de la haute société aimaient à se moquer de ces citoyens de l'ancienne colonie jugés vulgaires. Mais c'est surtout la tendresse que l'on éprouve pour ce fantôme cabot, pathétique et hilarant qui l'emporte. Mais revenue en mémoire cette phrase d'un autre grand amateur de fantômes, l'auteur Isaac Bashevis Singer, « En littérature comme dans les rêves, soulignait-il, la mort n'existe pas. C'est peut-être parce que la littérature abolit la mort que les fantômes s'y trouvent à leur aise, et c'est peut-être aussi pour cette raison que les enfants les aiment tant. Ils aimeront, en tout cas, j'en suis certaine, ce fantôme de Canterville-là. »
On rappelle le titre ?
Ça s'appelle « Le fantôme de Canterville », c'est signé Oscar Wilde, avec deux autres nouvelles traduites par Jules Castier, et c'est préfacé par Marie Dariussec au livre de poche.
Et puis on peut aller se procurer donc toute la collecte que vous évoquiez, qui est introduite à chaque fois par des auteuristes qui parlent de leur livre des 10 ans. J'étais en train de chercher le mien. Je sais pas trop.
Ouais, moi non plus, je suis pas trop sûre. Me reviennent en mémoire que des livres de l'école, en fait.
Merci Mathilde pour toutes ces lectures jeunesse de cette saison. On vous retrouve la saison prochaine. En attendant, on peut réécouter tous vos conseils et analyses et réflexions sur la littérature jeunesse sur franceculture.fr. Alors, nous jouons à un jeu pas aussi scientifique que votre manière de lire, Vincent Debanne, avec nos auditeurs et auditrices qui s'attachent à lire de près les textes et à y chercher des évocations musicales. Ça s'appelle le grand jeu des pages musicales et c'est la fin du book club chaque jour. Aujourd'hui, l'auditeur qui joue s'appelle Cyril. Il a choisi un extrait d'un texte qui s'appelle Adikou, paru en 2024 aux éditions Grasset. Un texte signé Raphaël Red. On se quitte avec cet extrait. On s'est lancé dans une collection coûteuse. Après Atlanta déjà, il a fallu la suivre dans les dernières plantations de Géorgie. Une ou deux portes d'église ont encadré son dos tendu, et puis Adikou a voulu voir le Tennessee, dont on a toutes quelque chose, nous aussi. On a testé les endroits où l'on sait très vite dans le regard des Blancs si on est noir ou pas. Adikou a dit « Youpi, c'est cette violence-là le point de chute. » À cause de la chanson et du whisky, et de Kalash et de Digno, t'enterré dans un trou comme dans le Tennessee. Adikou fredonnait. « Le sang est marron, j'ai bu trop d'Hennessy. » C'était un nouveau kiff de voir si clair.
C'était des haineux, ils m'ont trahi, j'suis trop peiné. J'suis dans la Guinée, presque à 300, j'peux plus freiner. Le sang est marron, j'ai bu trop d'Hennessy. Tu me dis que le compte y est, mais moi je vérifie.
Et s'il y a pas les comptes, on peut t'enlever la vie. T'enterrer dans un trou comme dans le Tennessee. Ah, ah, oui, comme dans le Tennessee.
Oh la la, chasse.
Kishta, kishta, un peu partout, j'en oublie dans le jean. J'ai fondu pour la rue, pour elle, j'avais le cœur en cire. Ça mange des pierres quand c'est chaud, alors des briques j'empile. Ancien m'a dit que ça ira mieux, mais c'est de pire en pire.
Et comme j'suis black comme ACB, j'peux mourir dans le film. Il me faut un bébé, j'fais les courses, j'achète un P38. Il me faut la paix du cœur, on a grandi dans le deal. On en a fait de la pierre, elle revient des Antilles.
J'suis solo dans la mêlée, ils me haïront.
Merci beaucoup Vincent Debanne
d'être
venu nous parler de votre livre passionnant « La source et le signe, anthropologie, littérature et paroles indigènes » paru dans la collection de la librairie du XXIe siècle aux éditions du Seuil. C'est vraiment passionnant. Aujourd'hui, au son, c'était Grégory Wallon. À la réalisation, c'était Daphné Leblond. On fait un grand salut amical et fraternel à Vivien Demeyer qui réalise toute la saison ce book club et un grand merci à toute l'équipe qui m'aide à penser et préparer ces émissions dans la joie. Chaque jour, j'ai de la chance, vous avez de la chance. Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Jeanne Aléo, Cyril Marchand, Noé Margas, Luc Vauvillier, Léa Weissgruss, Louise Hoth, gros bisous. Et Alexandra Lajbegovic qui anime pour vous le compte Instagram sur lequel continue évidemment la conversation.
J'ai appris que le crime n'est pas si...